Deuxième partie. Yes, we can. Chapitre 5. Par une belle matinée de février 2007, debout sur une estrade devant l'ancien Capitole de Springfield, là où Abraham Lincoln avait prononcé son célèbre discours sur la maison divisée, à l'époque où il n'était encore que député à la Chambre des représentants de l'Illinois, j'ai annoncé ma candidature à la présidence des États-Unis. Nous avions craint que le froid glacial ne décourage les gens de venir. Le thermomètre affichait moins 10 degrés. Mais quand je suis monté à la tribune, plus de 15 000 personnes étaient rassemblées sur la place et dans les rues adjacentes, toutes d'humeur festive, emmitouflées dans leurs parkas, écharpes, bonnets de laine et cache-oreilles, agitant des pancartes Obama qu'elles avaient elles-mêmes confectionnées ou que nos équipes leur avaient distribuées, leur souffle formant de petits nuages épars au-dessus de la foule. Mon discours, retransmis en direct à la télévision, résumait les grands thèmes de notre campagne. La nécessité d'une transformation en profondeur. La nécessité de s'attaquer à des questions à long terme comme le système de santé ou le changement climatique. La nécessité de dépasser les vieux clivages partisans à Washington. La nécessité d'un engagement citoyen actif. Michel et les filles m'ont rejoint sur scène pour saluer la foule rugissante à la fin de mon discours, devant le décor spectaculaire des bâtiments alentour, pavoisés d'immenses drapeaux américains. Mon équipe et moi, nous sommes ensuite envolés pour l'Iowa, où se livrerait, 11 mois plus tard, la toute première bataille nationale pour la nomination, et où nous espérions remporter une victoire précoce qui nous propulserait devant nos adversaires plus expérimentés. Nous avons organisé plusieurs débats publics dans diverses salles municipales, où nous avons de nouveau été accueillis par des milliers de supporters et de curieux. En marge d'un rassemblement à Cedar Rapids, j'ai entendu un cacique des coulisses politiques de l'Iowa glisser à un reporter de la presse nationale parmi la petite cinquantaine de journalistes qui nous suivaient « Ce n'est pas normal ». Quand on visionne les images de ce meeting, il est difficile de ne pas se laisser envahir par la nostalgie qui étreint aujourd'hui encore les anciens membres de mon staff et ceux de mes soutiens qui étaient présents ce jour-là. Le sentiment que nous venions de donner le coup d'envoi d'une aventure magique. Qu'au cours des 2 années suivantes, nous allions accomplir l'impossible et toucher au cœur d'une part essentielle et authentique de l'Amérique. Mais si les foules, la frénésie, l'attention médiatique de cette journée-là présageaient bel et bien le succès possible de ma candidature, je dois me rappeler à moi-même que rien, à l'époque, ne paraissait facile ni gagné d'avance, que nous avions régulièrement le sentiment que notre campagne allait dérailler et que sur la ligne de départ, j'avais l'impression, et je n'étais pas le seul parmi tous ceux qui suivaient les événements de près, de ne pas être un très bon candidat. À bien des égards, mes problèmes étaient directement liés à l'engouement que nous avions suscité et aux espoirs qui en découlaient. Axe nous a expliqué que les débuts de la plupart des campagnes présidentielles étaient forcément modestes, en mode circuit amateur, comme il disait. Public modeste, salle modeste, couverture médiatique cantonnée aux chaînes de télé et aux feuilles de chou locales, où le candidat et son équipe pouvaient tester leurs slogans, ajuster leur angle de tir, faire un faux pas ou connaître un moment de trac sans trop attirer l'attention. Nous n'avions pas ce luxe. Dès le premier jour, c'était comme si nous nous trouvions en plein milieu de Times Square et sous la lumière aveuglante des projecteurs, mon inexpérience était criante. Mon staff craignait par-dessus tout que je ne commette une bourde, selon le terme employé par la presse pour décrire n'importe quelle phrase maladroite prononcée par le candidat susceptible de révéler son ignorance, sa désinvolture, sa pensée approximative, son insensibilité, son machiavélisme, sa grossièreté, sa malhonnêteté, son hypocrisie, ou n'importe quelle phrase tout simplement jugée assez éloignée du bon sens commun pour rendre ledit candidat vulnérable aux attaques. Si l'on s'en tient à cette définition, la plupart des êtres humains commettent entre 5 et 10 bourdes par jour en moyenne, et chacun d'entre nous ne peut que s'en remettre à la tolérance et à la bienveillance de sa famille, de ses collègues et de ses amis, pour combler les failles de nos discours, saisir le sens véritable de nos paroles et, de manière générale, nous attribuer les meilleures intentions plutôt que les pires. En vertu de quoi, ma réaction instinctive était souvent d'ignorer les mises en garde de mon équipe. Ce jour-là, par exemple, alors que nous abordions la toute dernière étape de notre tournée express de l'Iowa dans la foulée de l'annonce de ma candidature, Axe a levé les yeux de son carnet de briefing. « Tu sais, m'a-t-il dit, la ville où on va, ça se prononce Waterloo. » « D'accord, ai-je dit. Waterloo. » Axe a secoué la tête. « Non, pas Waterloo. Waterloo. » « Attends, redis-moi ça pour voir. Waterloo. » a répété Axe en tendant les lèvres, la bouche en cul de poule. Encore une fois ? Axe a froncé les sourcils. Ok, Barak, c'est bon, arrête, c'est sérieux, là. Il ne m'a pas fallu longtemps, cela dit, pour comprendre que, dès la seconde où vous aviez annoncé votre candidature, les règles usuelles du langage ne s'appliquaient plus. Vous étiez cerné par les micros en permanence, et le moindre mot qui sortait de votre bouche était enregistré, amplifié, analysé, disséqué. À l'hôtel de ville d'Ames, dans l'Iowa, lors de cette première tournée après l'annonce de ma candidature, j'étais en train d'expliquer les raisons de mon opposition à la guerre en Irak, quand tout à coup, j'ai laissé échapper un mot malheureux. Les décisions irréfléchies de l'administration Bush, ai-je déclaré, avaient entraîné le gâchis de la vie de plus de 3000 jeunes soldats de notre armée. À l'instant même où j'ai prononcé ce mot, je l'ai regretté. J'avais toujours pris soin de faire la distinction entre mes positions vis-à-vis de la guerre et ma considération pour le sacrifice de nos soldats et de leurs familles. Seuls quelques journaux ont mentionné cette gaffe et un rapide mea culpa a étouffé dans l'œuf toute polémique. Mais j'ai retenu la leçon de cet épisode. Les mots étaient désormais chargés d'un poids différent et j'étais mortifié en imaginant la peine que ma désinvolture avait pu causer à une famille portant encore le deuil d'un proche disparu. Je suis par nature plutôt du genre à peser mes mots, ce qui, à l'aune du nombre de bourdes commises en général par les candidats à la présidence, me permettait de rester dans la moyenne basse. Mais le soin que je mettais à choisir mes mots a bientôt révélé un autre problème au cours de la campagne. Je m'exprimais de manière beaucoup trop verbeuse, et ça, c'était un vrai souci. Quand on me posait une question, j'avais tendance à donner des réponses contournées et sentencieuses, décomposant instinctivement chaque question en plusieurs parties et sous-parties. S'il y avait deux façons de voir les choses, j'en proposais souvent quatre. S'il y avait un bémol à ajouter à une opinion que je venais d'émettre, je ne me contentais pas de le signaler, j'en donnais une explication exhaustive. « Tu noies le poisson !» fulminait Axe, lassé de m'écouter pérorer sans fin. Pendant deux ou trois jours, je me suis forcé à rester concis, jusqu'au moment où, c'était plus fort que moi, je me mettais à gloser pendant 10 minutes sur les subtilités de la politique commerciale ou sur le rythme de la fonte des glaces dans l'océan Arctique. « Alors, c'était comment ?» demandai-je à Axe en quittant la tribune, ravi de m'être montré si précis et pointilleux. « 20/20 à l'interro. Nombre de bulletins dans l'urne, 0. » J'ai réussi à résoudre certains problèmes au fil du temps. Le plus préoccupant, alors que le printemps approchait, c'est que j'étais d'humeur massacrante, notamment en raison, je m'en rends compte aujourd'hui, de mon extrême fatigue au bout de 2 années de campagne sénatoriale, suivie d'une année supplémentaire à faire la tournée des hôtels de ville en tant que sénateur, puis de plusieurs mois de déplacement pour soutenir d'autres candidats. Une fois retombée l'adrénaline de l'annonce de ma candidature, l'ampleur de la tâche exténuante qui se profilait à présent devant moi me percutait de plein fouet. Et, de fait, exténuant n'est pas un terme trop fort. Quand je n'étais pas à Washington pour m'acquitter de mon devoir de sénateur, je me trouvais dans l'Iowa ou dans un autre état parmi les premiers à exprimer leur suffrage, où je faisais campagne 16 heures par jour, 6 jours et demi par semaine. Je descendais dans un motel quelconque, un Hampton Inn, un Holiday Inn, un American Inn ou un Super 8, et après 5 ou 6 heures de sommeil, j'essayais de faire un peu d'exercice si je trouvais une salle de sport dans les parages, ou ce qui s'en rapprochait le plus, je me souviens en particulier d'un vieux tapis de course au fond d'un salon de bronzage, avant de refaire mes valises et d'avaler en 4e vitesse un semblant de petit déjeuner. Avant de sauter dans un van et de passer quelques coups de fil pour récolter des fonds en attendant d'arriver à notre première étape du jour. Avant de me prêter au jeu des interviews avec le journal ou la chaîne de télé locale, 2 ou 3 poignées de main avec les cadres du parti sur place, une pause pipi et un petit détour éventuellement par le boui-boui du coin pour dire bonjour aux gens. Avant de remonter dans le van et de décrocher à nouveau le téléphone pour récolter de l'argent. Le tout à raison de 3 ou 4 fois par jour, ponctué d'un sandwich froid ou d'une salade sur le pouce, puis vers 21h, j'atterrissais sur les rotules dans un nouveau motel, j'essayais d'avoir Michel et les filles au téléphone avant qu'elles aillent se coucher, et je me mettais à étudier la feuille de route du lendemain, qui finissait en général par me glisser des mains, tandis que je m'écroulais, assommé de fatigue. Il faut ajouter à cela les allers-retours à New York, Los Angeles, Chicago ou Dallas pour les soirées de collecte de fonds. C'était une vie non pas de strass et de paillettes, mais de monotonie. Et à l'idée de devoir tenir encore 18 mois à ce régime, je me suis très vite senti découragé. J'avais revendiqué ma place dans la course présidentielle, j'avais impliqué un grand nombre de personnes dans mon équipe, j'avais demandé de l'argent à des inconnus et j'avais insufflé une vision en laquelle je croyais. Mais ma femme me manquait, mes enfants me manquaient. Je voulais dormir dans mon lit, pouvoir prendre une douche digne de ce nom, m'asseoir à une vraie table et faire un vrai repas. Je ne voulais plus être obligé de répéter exactement la même chose, exactement dans les mêmes termes, 5, 6 ou 7 fois par jour. Heureusement, outre Gibbs, qui était suffisamment robuste, expérimenté et lui-même assez grincheux pour me pousser à garder le cap quand nous étions sur la route, j'avais à mes côtés 2 fidèles compagnons pour m'aider à surmonter cette phase de déprime. Le premier était Marvin Nicholson, moitié canadien d'origine, doté d'un charme sans manière et d'un tempérament imperturbable. Marvin, du haut de sa trentaine bien entamée et de ses presque 2m10, avait exercé divers petits métiers, de caddie de golf à serveur dans un bar à striptease, avant d'être engagé comme assistant personnel de John Kerry 4 ans plus tôt. C'est un drôle de job, assistant personnel. Aide de camp et homme à tout faire, chargé de veiller à ce que le candidat ait toujours ce dont il ou elle a besoin, que ce soit son casse-croûte préféré ou un cachet d'aspirine, un parapluie quand il pleut ou une écharpe quand il fait froid, ou le nom du président de l'antenne locale du parti qui s'avance vers vous pour vous serrer la main. Marvin s'acquittait de ce rôle avec une habileté et une délicatesse qui l'avaient rendu, pour ainsi dire, légendaire dans les cercles politiques. C'est pourquoi nous l'avions engagé en qualité de responsable des déplacements officiels. En liaison avec Alissa et les équipes de campagne sur place, il coordonnait nos voyages, s'assurait que j'avais toujours à ma disposition le matériel technique requis et, dans la mesure du possible, que je respectais le déroulé horaire prévu de la journée sans trop déborder. Et puis, il y avait Reggie Love. Né dans une famille noire de la classe moyenne en Caroline du Nord, lui aussi d'une carrure impressionnante avec son 1m95, Reggie avait été une vedette des équipes de basket et de football américain à l'université Duke, avant que Pete Rouse l'engage comme assistant au sein de mon équipe au Sénat. Une remarque en passant, les gens sont souvent surpris de s'apercevoir que je suis moi-même assez grand, 1m85. À mon avis, c'est parce qu'ils m'ont vu pendant des années sur des photos en compagnie de Reggie et de Marvin, à côté de qui je fais figure de nabo. Sous la tutelle de Marvin, Reggie, à 25 ans, est devenu mon assistant personnel, et même s'il lui a fallu un petit temps d'adaptation, il a réussi la prouesse d'oublier dans la même semaine ma serviette à Miami et la veste de mon costume dans le New Hampshire, il s'est très vite attiré l'affection de tous dans l'équipe par sa conscience professionnelle et sa bonne humeur matinée d'un soupçon de gaucherie. Pendant près de 2 ans, Gibbs, Marvin et Reggie allaient être aux petits soins pour moi, m'aider à ne pas perdre le sens des réalités et me procurer d'innombrables occasions de me détendre en me faisant rire. Nous jouions ensemble aux cartes et au billard. Nous parlions de sport et nous échangions des conseils musicaux. Reggie a contribué à mettre à jour ma playlist de hip-hop qui s'était arrêtée à Public Enemy. Ils me parlaient de leur vie sociale sur la route, compliquée, et de leurs aventures dans certaines de nos escales une fois la journée de travail terminée. Il était parfois question de salons de tatouage et de jacuzzi. Nous taquinions Reggie sur son ignorance juvénile. Un jour, j'ai mentionné le nom de Paul Newman, et Reggie a dit « Ah oui, le mec qui fait de la vinaigrette, c'est ça ?» Et Gibbs, sur son appétit d'ogre, lors de la foire annuelle de l'Iowa, alors qu'il hésitait entre un Twinkie et un Snickers plongé dans la friture, la gentille dame derrière son stand lui a dit « Mais mon chou, qui a dit que tu étais obligé de choisir ?» Dès que l'occasion se présentait, nous jouions au basket. Même dans le plus minuscule patelin, nous trouvions toujours un gymnase scolaire et si nous n'avions pas le temps de disputer un vrai match, Reggie et moi nous retroussions les manches et nous lancions dans un concours de dribble et de panier en attendant qu'il soit l'heure pour moi de remonter sur scène. Comme tout bon athlète, il était très compétitif et ne lâchait jamais le morceau. Le lendemain d'une partie, il m'arrivait de me réveiller tellement perclus de courbatures que je pouvais à peine marcher, même si j'étais bien trop orgueilleux pour le laisser paraître. Un jour, nous avons joué contre une équipe de pompiers du New Hampshire, dont je cherchais à obtenir le soutien officiel. C'était des joueurs du dimanche, un peu plus jeunes que moi, mais moins entraînés. Quand Reggie leur a piqué le ballon au rebond et est allé planquer un dunk fracassant pour la 3e fois d'affilée, j'ai déclaré un temps mort. « Tu fais quoi, là ?» lui ai-je demandé. « Comment ça ? Rassure-moi, tu as bien compris que j'essayais d'avoir leur soutien. » Reggie m'a regardé d'un air incrédule. « Vous voulez qu'on fasse exprès de perdre contre ces nazes ?» J'ai réfléchi une seconde. « Non, je n'irai pas jusque-là. Fais juste en sorte que ce soit assez serré pour qu'il ne l'ait pas trop mauvaise. » Passer du temps avec Reggie, Marvin et Gibbs me permettait de lâcher un peu de la pression que la campagne faisait peser sur mes épaules. C'était une petite poche de liberté dans laquelle je n'étais plus un candidat ou un symbole ou la voix de toute une génération ou même le patron. Juste un gars de la bande. ce qui, à mesure que défilaient ses premiers mois épuisants, m'a davantage aidé que n'importe quelle parole encourageante. Gibbs a bien essayé le coup du petit discours de motivation à un moment, un jour que nous montions dans un énième avion au terme d'une énième journée interminable, après une prestation particulièrement peu inspirée de ma part. Il m'a expliqué qu'il fallait que je sourie plus, que je garde en tête que nous vivions une aventure formidable et que les électeurs avaient envie de voir un combattant plein d'enthousiasme. « Est-ce que ça t'amuse un peu, au moins ?» m'a-t-il demandé. « Non. » « On peut faire quelque chose pour que ce soit plus amusant ?»« Non. » Assis dans la rangée devant nous, Reggie, qui nous avait entendus, s'est retourné vers moi, le sourire jusqu'aux oreilles. « Si ça peut vous consoler, » a-t-il dit, « moi, je ne me suis jamais autant éclaté. » Oui, ça me consolait, même si je ne lui ai pas avoué sur le moment. Pendant ce temps-là, cela dit, j'apprenais beaucoup, et vite. Je passais des heures à potasser avec application les épais dossiers de briefing préparés par mon staff, assimilant les toutes dernières études sur les vertus de la pédagogie de la petite enfance, sur les avancées les plus récentes de la technologie des batteries qui allait faciliter le développement des énergies propres, ou sur les manipulations monétaires auxquelles se livrait la Chine pour booster ses exportations. Rétrospectivement, je me rends compte que je faisais ce que nous avons tous tendance à faire quand nous sommes en proie à l'incertitude ou confrontés aux difficultés. Nous nous raccrochons à ce qui nous paraît le plus familier, au sujet sur lesquels nous nous sentons le plus à l'aise. Les dispositifs de mise en œuvre d'une politique, je connaissais. Absorber et analyser l'information, je savais faire. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que l'enjeu pour moi, ce n'était pas d'avoir un programme en 10 points. C'était plutôt de réussir à synthétiser les sujets pour les réduire à leur essence, à raconter une histoire susceptible d'aider les Américains à mieux comprendre le monde de plus en plus trouble dans lequel nous vivions, et à leur faire sentir que je pourrais, moi, en tant que président, les aider à y naviguer. Mes adversaires, plus expérimentés que moi, savaient déjà très bien tout ça. Cela m'avait valu un grand moment d'embarras au tout début de la campagne, lors d'un forum sur le système de santé organisé par l'Union internationale des employés des services, SEIU, à Las Vegas, un samedi soir à la fin du mois de mars 2007. Plouf était réticent à ce que j'y participe. Selon lui, ce genre de grand raout s'apparentant à une audition collective, au cours duquel les candidats se présentaient devant tel ou tel groupe d'intérêt démocrate, favorisait les initiés et éloignait les autres du contact direct avec les électeurs. Je n'étais pas d'accord. Le système de santé était une question primordiale à mes yeux. D'une part, parce que j'avais entendu nombre de témoignages personnels édifiants à ce sujet au cours de mes diverses campagnes, et d'autre part, parce que je n'avais jamais oublié les derniers jours de ma propre mère, pendant lesquels elle n'avait cessé de se demander non seulement si elle allait survivre, mais si son assurance allait lui donner les moyens de continuer à se soigner. Il s'avère que j'aurais mieux fait d'écouter Plouf. J'avais trop de données en tête et pas assez de réponses. Devant une immense assemblée d'employés du secteur de la santé, j'avais passé tout mon temps de parole à baragouiner, à bafouiller et à me prendre les pieds dans le tapis. En réponse à une question directe, j'avais dû me résoudre à avouer que je n'avais pas encore de plan bien défini pour réformer le système de santé et le rendre plus accessible à tous. On aurait dit qu'une nuée de criquets venait d'envahir l'auditorium. L'agence Associated Press avait publié un compte-rendu assassin de mon intervention, que les autres médias s'étaient empressés de relayer dans tout le pays, sous le titre cruel « Obama ». Beaucoup de style, peu de substance. Mon intervention avait été d'autant plus catastrophique en comparaison de celle livrée par John Edwards et Hillary Clinton, les deux candidats en tête de la course à ce moment-là. Edwards, le séduisant et raffiné ancien candidat à la vice-présidence, avait quitté le Sénat en 2004 pour faire campagne comme colistier de John Kerry, puis il avait fait mine de se lancer dans la fondation d'une association de lutte contre la pauvreté, mais il n'avait jamais cessé en réalité de poursuivre ses ambitions présidentielles. Même si je ne le connaissais pas bien, Edwards ne m'avait jamais beaucoup impressionné. En dépit de ses authentiques origines modestes, les nouveaux accents populistes de son discours me paraissaient artificiels, élaborés à partir d'une étude de sondage, l'équivalent politique d'un de ces boys bands créés de toutes pièces par le service marketing d'une maison de disques. Mais ce jour-là, à Las Vegas, j'avais bien été forcé d'en rabattre en l'entendant exposer de manière limpide son projet de couverture universelle, avec tout le talent oratoire qui avait fait de lui un brillant avocat en Caroline du Nord. Hillary était encore meilleure. Comme beaucoup de gens, j'avais observé de loin les Clinton pendant les années 1990. J'avais éprouvé une réelle admiration pour les dons prodigieux et la puissance intellectuelle de Bill. Si certains aspects de la politique dite de la triangulation, soit de la recherche systématique du compromis dont il se réclamait, me laissaient dubitatif, sa loi sur la réforme des allocations, par exemple, qui ne protégeait pas assez les chômeurs, ou sa rhétorique intransigeante sur la question de la criminalité, qui contribuerait à une explosion de la surpopulation dans les prisons fédérales, je saluais l'habileté avec laquelle il avait su redonner une légitimité électorale aux idées progressistes et au Parti démocrate. Quant à l'ancienne First Lady, je la trouvais tout aussi impressionnante et plus empathique, peut-être parce que son histoire personnelle m'évoquait d'une certaine manière le parcours de ma mère et de ma grand-mère. Toutes trois étaient des femmes brillantes et ambitieuses qui s'étaient heurtées aux contraintes de leur époque, qui avaient dû batailler face aux égaux masculins et aux règles sociales édictées par les hommes. Si Hillary était devenue légèrement guindée, peut-être un peu trop bien calibrée pour le rôle, qui aurait pu le lui reprocher, compte tenu de toutes les attaques qu'elle avait subies? Au Sénat, mon a priori favorable à son égard s'était trouvé amplement conforté. Chaque fois que nous avions eu affaire ensemble, j'avais pu constater sa puissance de travail peu commune, sa parfaite cordialité et le soin irréprochable qu'elle apportait à la préparation de ses dossiers. Elle avait aussi un rire franc et généreux qui avait le don de mettre tout le monde de bonne humeur. Si j'avais décidé de briguer la nomination démocrate malgré la présence de Hillary dans la course, ce n'était pas en raison d'un quelconque jugement de ma part concernant les faiblesses propres de sa candidature, mais plutôt parce que j'avais le sentiment qu'elle ne pourrait de toute façon jamais surmonter l'amertume, la rancœur et les opinions sans appel qu'inspirait le souvenir des années Clinton à la Maison-Blanche. C'était peut-être injuste, mais je ne voyais pas comment elle pourrait mettre un terme au vieux clivage politique, changer le cours des affaires à Washington ou donner au pays l'impulsion nouvelle dont il avait besoin. Mais en la regardant parler avec passion et précision de notre système de santé ce soir-là à la tribune du forum du SEIU, et en entendant la foule saluer la fin de son discours par un tonnerre d'applaudissements, je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé. Ce n'était certainement pas la dernière fois que je devais m'avouer vaincu face à Hillary, ou face à la moitié des autres candidats en lice d'ailleurs, car bientôt, on aurait dit que nous nous retrouvions toutes les 2 ou 3 semaines pour croiser le fer. Je n'avais jamais été très bon dans ce genre d'exercice. Mes longs développements et mon goût pour les réponses compliquées me désavantageaient, surtout quand j'étais entouré de 7 professionnels aguerris et que nous n'avions chacun droit qu'à 1 minute chrono pour répondre à une question. Lors de notre premier débat au mois d'avril, le modérateur m'a interrompu au moins à 2 reprises au milieu d'une phrase parce que j'avais épuisé mon temps de parole. À la question de savoir comment je comptais réagir face à la menace terroriste, je me suis mis à expliquer qu'il fallait renforcer la coordination entre les divers intervenants au niveau fédéral, mais j'ai oublié d'évoquer le plus important, les moyens à mettre en œuvre pour traquer les terroristes. Au cours des minutes suivantes, Hillary et les autres se sont fait un plaisir, chacun leur tour, de relever mon omission. Leur ton était grave, mais une lueur malicieuse dans leurs yeux me lançait « Tiens, prends ça, Blesaï ». À la fin de ce débat, Axe m'a transmis ses remarques d'après-match le plus délicatement possible. « Ton problème, m'a-t-il dit, c'est que tu essaies systématiquement de répondre à la question. » « Mais ce n'est pas le but, justement. » « Non, Barack, ce n'est pas le but, justement. Le but, c'est de faire passer ton message. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes priorités? C'est ça qui compte pour les gens. Écoute, une fois sur deux, la question du modérateur a pour seul objectif de te faire trébucher. Ton boulot, c'est d'éviter le piège. » Alors, quelle que soit la question, tu lâches 2 ou 3 mots rapides pour donner l'impression que tu as répondu, et ensuite, tu parles des sujets dont toi, tu veux parler. Et c'est se foutre de la gueule du monde, me suis-je offusqué. Absolument. J'étais énervé contre Axe, et plus encore contre moi-même. Pourtant, je pouvais difficilement lui donner tort, comme je m'en suis rendu compte en regardant la vidéo du débat. Les réponses les plus percutantes n'étaient pas celles qui offraient une explication, mais celle qui provoquait une émotion, ou qui pointait du doigt l'ennemi, ou qui faisait bien comprendre aux électeurs que vous, et vous seul, plus que n'importe quel autre candidat sur ce plateau, étiez et seriez toujours de leur côté. Il était facile de fustiger la superficialité de l'exercice, mais un président n'était ni un avocat, ni un expert comptable, ni un pilote engagé pour effectuer une tâche bien précise requérant des compétences spécifiques. Mobiliser l'opinion publique, former des coalitions pour faire avancer les choses, voilà en quoi consistait le job. Que ça me plaise ou non, ce qui faisait réagir les gens, c'était les émotions, pas les faits. Convoquer les plus nobles de ces émotions et non pas les plus basses. Adosser la part d'ange en nous, comme l'avait dit Lincoln, à une politique de bon sens et de raison. Faire le show, tout tout en parlant vrai. Voilà la barre qu'il me fallait franchir.